Joyeuse Pâques à vous et à vos familles en ce dimanche de la résurrection. Lorsque Jésus a été crucifié en l'an 33, il y avait seulement 120 disciples, 120 personnes, une poignée de personnes qui le suivaient. Aujourd'hui, en 2022, il y a 2,3 milliards de personnes sur la terre qui adhèrent à la foi chrétienne. L'Église chrétienne est de loin la plus grande organisation sur la terre. Une personne sur trois sur la terre se dit d'allégeance chrétienne. Il y a plus de chrétiens sur la terre que la Chine, l'Europe et les États-Unis ensemble. De gens qui s'attachent et disent « Notre foi est dans le Jésus et dans le Christ ressuscité ». Comment cela a-t-il pu arriver? Sérieux? Comment le christianisme s'est-il répandu et multiplié si vite, si loin, si rapidement, de manière si foudroyante, mais aussi depuis si longtemps, de décennies, de siècle en siècle, comment un petit groupe de pêcheurs qui ont sans le sou, qui ont laissé leur barque pour suivre Jésus, ont-ils pu lancer et créer un mouvement mondial où une personne sur trois sur la planète est chrétien? La réponse est simple, c'est deux mots, la résurrection. C'est la résurrection qui fait toute la différence. Lorsque Dieu, la réponse est dans ces deux mots, c'est la résurrection. C'est là que tout a changé. Lorsque Dieu a dit, je vais venir sur terre et mourir, prendre forme humaine, prendre toutes les fautes et traverser toutes les épreuves humaines, mourir et ressusciter. Je vais revenir à la vie, ressusciter pour leur prouver que je suis Dieu. C'est l'événement, ça devient l'événement le plus significatif de l'histoire de la planète. C'est un game changer historique. La résurrection a séparé l'histoire entre un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez jamais pensé pas à ça, mais chaque date, tous les autres événements de l'histoire sont datés en relation avec la naissance, la résurrection de Jésus-Christ. On est le 17 avril de l'an 2002, après Jésus-Christ. Tous les événements de l'histoire sont en relief, sont mis en perspective avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Même votre fête, votre anniversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle, pas en ligne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle que c'est votre fête aujourd'hui? C'est votre fête aujourd'hui. À la première réunion, on a eu un cri « Moi! » Et je pense tout simplement que, parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'offre un livre gratuitement ou des cadeaux, et je pense que cette deuxième salle est juste plus sincère que la première. Je pense que la deuxième salle est juste plus honnête que la première. Alors, des livres pour tout... Non, on continue le message. Et la croissance de la foi chrétienne est exponentielle. Ce qui prend place ici, au Québec, à toutes les semaines, la semaine dernière, on était avec un agent d'immeuble, et puis lorsque les gens lorsqu'on parle de nos 7 sites, lorsqu'on parle de milliers de personnes rassemblées, milliers qui suivent en ligne, là, ce qui prend place ici au Québec, c'est pas quelque chose d'unique, c'est vraiment planétaire. Et les historiens séculiers, mais aussi les missiologues, ceux qui étudient les mouvements religieux dans le monde, nous disent par exemple, et ça c'est assez hallucinant, que si vous prenez une ligne du temps, de 1980, tout proche, à 2022, il y a plus de personnes qui se sont joints à une église évangélique, qui ont tourné leur cœur vers la foi chrétienne évangélique de 1980 à 2022 sur la planète que de la croix de Jésus-Christ il y a 2000 ans jusqu'à 1980. La croissance du Christ ressuscité, elle est exponentielle. La Bible avait dit, il va répandre son esprit sur toute chair et nous en faisons partie. Est-ce qu'on peut célébrer avec 2,3 milliards de personnes ce matin? Et surtout, oubliez le narratif que la foi chrétienne n'intéresse pas les jeunes. Lorsque je regarde, il y a des centaines ici à Nouvelle-Vie, des milliers qui suivent ce qu'on fait en ligne. Et lorsque je regarde cet article, du magazine L'Actualité, qui vient de prendre avril 2022, la religion s'invite sur TikTok. TikTok est d'abord connu comme un réseau axé sur le divertissement qui attire les 13 à 29 ans. Mais je vous lis l'article. Or, la spiritualité fait de plus en plus son nid. Le hashtag Jésus compte 51,5 milliards de visionnements. Il n'en totalisait que 85 millions en 2019, selon les articles des sites Insider et The Daily Beast. Selon Solange Lefebvre, qui est une professeure et titulaire de la gestion de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l'Université de Montréal, l'intérêt, je la cite, l'intérêt pour les sujets religieux sur TikTok n'ont rien de surprenant. Lorsqu'on est âgé, entre 15 et 25 ans, on est dans une période où normalement, on se pose des grandes questions, dit-elle. Dans cette quête de construction de soi, on se trouve souvent à la recherche d'une spiritualité, de repères et de règles de vie, en quête de réponses aux grandes questions existentielles de la vie et d'outils, j'ai aimé cette expression-là, d'outils de vie tangibles pour faire face à une société de plus en plus anxiogène. Notre thème pour le week-end, c'est du chaos à la lumière. Et notre thème spécifique pour ce dimanche matin de Pâques, c'est « Pourquoi je n'ai pas peur du chaos? » Lorsqu'on parle du chaos, il n'est pas trop difficile de reconnaître la réalité qui a un certain sens de chaos, de dérèglement, d'incertitude, de perte d'ordre, de chaos dont nous essayons d'émerger. Nous sommes une société aujourd'hui, un monde qui, alors que nous essayons de, on n'est pas sorti encore, mais d'émerger d'une pandémie mondiale qui a laissé des traces profondes. On l'a fait en entrant avec des bruits de guerre autour de nous, avec des mots de génocide qui sont lancés à tous les jours dans l'actualité, avec un génocide qui a un potentiel de conflit nucléaire global. En 2022, vous pouvez choisir, au Québec, vous pouvez choisir votre chaos. Le chaos dans les nations, le chaos des changements climatiques, le chaos sur les médias sociaux pendant la pandémie, même après la pandémie, le chaos social au Québec dans nos CHSLD, le chaos dans notre système de santé, le chaos avec les Premières Nations, l'horreur, le chaos, le bouleversement pendant la pandémie lorsqu'on voyait un pensionnat après l'autre et ces fosses où les enfants avaient été enfouis. Il y a un sens de chaos, un sens de chaos. Il y a de plus en plus, et on le ressent, on parle avec les gens, et beaucoup ressentent un profond besoin, conscient ou inconscient, de trouver un moyen d'émerger du chaos à la lumière, de la peur à la paix, à une certaine paix intérieure. Lors de la première Pâque, dans les textes bibliques, il y a 2000 ans, à la résurrection de Christ, le matin de la résurrection de Christ dans les Évangiles, la première chose que le messager du ciel a dit à ceux qui sont arrivés au tombeau vide, c'est « N'ayez pas peur ». C'est ce qu'il a dit aux femmes lorsqu'elles se sont approchées. C'est ce qu'il a dit aux disciples quelques heures plus tard. En fait, « N'ayez pas peur » est le commandement le plus répété de la Bible. Il y a 365 « N'ayez pas peur » dans la Bible. Comme si Dieu en avait un pour toi, pour chaque jour de l'année. Comme si Dieu nous disait « Je ne veux pas, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la vie abondante que j'ai pour vous, que vous viviez dans la peur, dans la crainte. » La peur est un problème universel. C'est le plus vieux problème de l'être humain. Dans les premiers mots dans la Bible par un humain, dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, c'est l'homme qui dit à son Créateur « J'ai eu peur et je me suis caché. » Et les êtres humains ont eu peur les uns des autres, peur de Dieu, peur d'eux-mêmes, d'être vrais envers eux-mêmes, en se cachant derrière des masques depuis. Cette dimension de cette peur-là que je vous illustre ce matin, je le sais qu'il y en a d'entre vous en ce moment, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, parce que là, je ne suis pas... » Et des gens en ligne aussi qui disent « Moi, je ne suis pas particulièrement du genre inquiet, je ne suis pas particulièrement du genre anxieux, je ne suis pas particulièrement craintif. » C'est certain, en ligne, écoute-moi, et tout le monde ici, c'est certain que vous pensez ça, parce que je ne suis pas particulièrement craintif. C'est certain que vous pensez ça, parce que nous ne réalisons pas à quel point, tous les jours, combien de nos décisions sont en fait pris inconsciemment chaque jour basés sur une certaine peur intérieure, certaines craintes, certaines appréhensions intérieures. On doit aller à quelque part rencontrer des gens, même dans les choses les plus banales. Là. Comment je vais m'habiller, comment je vais me comporter, pourquoi? Parce que j'ai peur, je ne veux pas avoir l'air d'un zouf, je ne veux pas mal paraître, je ne veux pas... Peut-être qu'à l'église ce matin, en route vers ici, est-ce que je suis correct, est-ce que je suis bien? Je veux dire à tout le monde ici ce matin, vous êtes tous beaux et belles. Tout le monde est parfait dans ce lieu ce matin. Et à travers la... Vous réalisez que vous êtes en train de vous applaudir vous-même là, en ce moment. Moi, je vous laisse aller. Et en ligne, je vous le dis, à travers les caméras renversées, je regarde chaque personne qui est en ligne, vous êtes beau et belle aussi. Mais est-ce qu'on peut se le dire que ça nous est tous déjà arrivé, que déjà pensé qu'il y a des fois, en remarquant quelqu'un qui avait un accoutrement vraiment spécial, on a eu la pensée, tu aurais dû avoir un petit peu plus peur. Est-ce que vous me suivez? Au cas où vous seriez la seule personne au monde qui pense qu'il n'a pas d'enjeu avec la peur, laissez-moi vous donner quelques synonymes, quelques autres saveurs et couleurs de la peur. As-tu déjà ressenti l'anxiété, l'inquiétude, l'insomnie, perte de sommeil? As-tu déjà été troublé, préoccupé, méfiant, c'est des synonymes, méfiant, craintif, agité ou en colère? Là, vous dites, ben là, je ne te suis pas, je pensais qu'on parlait de la peur. Réalisez-vous que très souvent, réalises-tu que lorsque tu pètes une coche, lorsque tu pètes un plomb, lorsque tu exploses de colère, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose a mis un doigt sur une de tes peurs. J'ai peur de ne pas être entendu ou compris, je me choque. J'ai peur de ne pas être respecté, je me choque. J'ai peur de ne pas être reconnu à ma juste valeur après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je me choque. J'ai peur d'être abandonné, je me choque. J'ai peur que tu me laisses, je me choque. J'ai peur de ce que je ne connais pas. J'ai peur de ce que je ne contrôle pas. Nous vivons dans une société en colère parce que nous vivons dans une société qui a peur. De plus en plus d'études et de psychologues viennent et sortent que même toute cette colère pendant la pandémie est enracinée dans la vie de plusieurs avec un sentiment de peur. Je ne suis pas capable de contrôler ce qui prend place. Imaginez si la liste de toutes nos peurs apparaissait. Vous avez vu qu'on a un petit peu de technologie ici, des caméras, tout ça, je ne savais même pas que ça existait, mais avec les nouvelles caméras, on a fait installer, c'est vraiment formidable, en dessous de chacune de vos chaises, il y a un petit bidule qui fait en sorte que dans quelques minutes, dans quelques instants, lorsque je vais donner le signal, toutes vos peurs vont apparaître à l'écran. Ça va être formidable, on va commencer ici. La liste de nos peurs. Peur d'être rejeté, peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir réussi ma vie, peur d'être démasqué, le syndrome de l'imposteur. Tout le monde pense que je vais bien, que je suis correct, que je suis capable de faire ça, mais moi, je sais ce que je vis, c'est ce que je ressens. Peur du futur, peur de l'économie, peur de l'inflation, peur de perdre mon emploi, peur de ne pas trouver un emploi, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur d'aimer, peur d'être rejeté. Peur de ne pas être à la hauteur dans une relation, mais en même temps peur d'une relation, mais en même temps peur d'être seul, peur de vieillir, peur de mal vieillir, peur de vieillir seul, peur pour moi-même, peur pour mon couple, peur pour mes parents, peur pour mes enfants. La bonne nouvelle de Pâques et la bonne nouvelle de la résurrection, c'est qu'il y a dans ce message de renaissance, dans ce message de la résurrection, il y a un chemin pour une vie où nous n'avons pas, où nous renversons la peur, où nous sortons, nous émergeons, nous guérissons du chaos et où malgré le chaos extérieur, nous marchons dans une paix intérieure, une paix que seulement cette marche avec Dieu peut donner. Et pour encourager quelqu'un qui en a besoin ou qui est à l'écoute pour une première fois, que ceux qui l'ont expérimenté puissent leur donner un encouragement ce matin. C'est vrai, c'est réel. La résurrection est inclusive, il nous appelle. Jésus, 2 Corinthiens 5, Jésus a inclus, appelé et invité tout le monde dans sa mort et dans sa résurrection. Et Romains dit, la mort c'est la croix, de la croix à la résurrection, Jésus nous amène à entrer avec lui. Si le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts habite ou demeure en vous, il vous redonnera la vie. Quel que soit ce qui est mort en moi, quel que soit ce qui a perdu, qui s'est desséché, l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Christ peut demeurer en moi et redonner la vie à tout ce qui est mort en vous par son Esprit qui habite en vous. C'est un chemin pour une vie où nous renversons la peur, où nous trouvons la lumière malgré le chaos. L'Épître aux Romains dit de cette façon, « La vie de résurrection que vous avez reçue de l'Esprit de Dieu n'est pas une vie de peur pour demeurer esclave dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez maintenant vous rapprocher de Dieu. » Et le texte est assez puissant. C'est une image. Pas vous approcher de Dieu en disant, mais le texte dit réellement, vous approchez de Dieu en criant « Abba », qui veut dire « Papa ». Pas le terme de révérence « Père ». Non, le terme affectueux d'un enfant qui crie « Papa » parce qu'il court vers celui qui le rassure de toutes ses peurs. « Papa, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et aussi héritiers de Dieu. Il faut que vous compreniez qu'il s'adressait à des gens avec un background religieux où la seule perspective qu'ils avaient de Dieu était une perspective éloignée d'un Dieu en colère, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu inaccessible. C'était totalement révolutionnaire. C'est révolutionnaire la notion qu'on peut s'approcher, la perspective que vous pouvez aller à Dieu en disant « Papa », en criant « Papa ». Paul disait littéralement « Pense à un père affectueux. Pense à un père avec un enfant sur ses épaules. Pense à un père affectueux, un père présent, un père qui protège, un père qui, en un regard, en un toucher, apaise les cœurs. Et c'est comme ça que la résurrection te permet de t'approcher de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, le miracle de la résurrection, c'est que l'Esprit de Dieu peut venir témoigner ça à ton esprit. C'est une force pour guérir extraordinaire. Je sais que vous demandez, bien, en quoi la résurrection, il y a 2000 ans, pourrait m'aider à réduire mon mal de vivre aujourd'hui, à faire une différence pour moi aujourd'hui. Parce que la peur, toute peur est fondée sur le mensonge ou sur l'ignorance, dans toutes les sphères de la vie. Mais plus nocif, plus toxique, plus dangereux, plus grave, dans ce domaine spirituel, dans ce domaine ultime de ta relation, avec Dieu, de ne pas savoir, de ne pas connaître, ou d'avoir été nourri, avoir été alimenté et abreuvé de faux concepts sur Dieu, nourri ta part. Jésus a dit, tu connaîtras la vérité, et c'est la vérité qui va te rendre libre. Alors, ce matin, en quelques minutes, je veux juste vous offrir quatre réalités spirituelles, quatre faits reliés à la résurrection, quatre promesses que si vous les connaissez et vous les comprenez et les croyez, vont vous permettre de renverser la peur. Et on va prendre les lettres du mot peur, P-E-U-R. C'est un acrostiche d'apaisement. Et la première dimension qui me rassure, qui fait que je veux vous sortir d'ici en disant, comme moi, je n'ai pas peur du chaos. Je n'aurai pas peur du chaos à cause de la résurrection. Et la première dimension, c'est les preuves et promesses que nous donne la paix. Romains 1, 14 dit Jésus qui a été démontré, prouvé, révélé comme fils de Dieu avec puissance lorsqu'il a été ressuscité des morts. C'est ça qui prouve qu'il est Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous proclamons Jésus-Christ comme notre Seigneur. Un des faits les plus incontournable, il est plus difficile à expliquer si vous voulez ne pas croire, si vous dites, c'est impossible, la résurrection physique de Jésus, c'est de la mythologie. Une des choses qui est les plus difficiles à expliquer dans le récit historique, c'est la transformation que ces hommes-là et ces femmes-là ont vécu après la résurrection. Lorsque les récits de cette époque-là étaient écrits, très souvent, ils se donnaient le beau rôle, puis l'histoire était réécrite de façon héroïque. Les évangiles sont d'une brutale honnêteté. Les disciples, même si Jésus a parlé de résurrection pendant 3 ans, comme vous et moi, c'était au-delà de leur compréhension et de l'entendement humain, de leur conception de ce qui peut arriver dans le réel. Et lorsqu'il est crucifié, c'est la fin pour eux. Les évangiles nous les peignent. Ne pensez pas que les 12 disciples étaient le matin de Pâques, se sont levés, sont allés sur le bord du tombeau, puis étaient tous excités avec un petit chapeau sur la tête puis des ballons, et ils ont fait 10. 9, 8, 5, avec un compte à rebours. Il est ressuscité! Pas du tout. La Bible nous dit qu'ils étaient morts, ils étaient dévastés, ils étaient terrorisés. Ils ont été, lorsqu'ils le voient mourir devant eux, mis au tombeau 3 jours, ils sont démolis, détruits, désillusionnés, démoralisés, profondément découragés. Mais comment ont-ils pu passer de cet état à Paul qui dit « Nous qui proclamons Jésus-Christ comme notre Seigneur ». Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc, qui est un docteur et un historien, a écrit le récit historique de comment l'Église a commencé. Ça s'appelle les Actes des apôtres. C'est mal nommé, parce qu'en fait, c'est les actes de Jésus ressuscité à travers les apôtres. Et il écrit, Luc écrit, au tout début, les premiers versets du premier chapitre du récit historique de la naissance de l'Église chrétienne après la résurrection de Jésus. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, ça c'est la crucifixion. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comment ont-ils pu être transformés? Comment ceux qui étaient apeurés, qui étaient terrorisés, comment l'apôtre Pierre, qui avait renié, avait tellement rien en lui-même pour se tenir que lorsque Jésus a seulement été arrêté, il a renié le Seigneur et s'est mis à blasphémer qu'il ne le connaissait pas devant une gamine. Mais comment ces hommes terrorisés, comment ces hommes qui sont terrés et terrorisés, ces femmes, sont-ils devenus ceux qui ont changé le monde? La majorité d'entre eux sont morts, les historiens nous disent, la majorité sont morts comme des martyrs. Alors, on ne donne pas sa vie pour une supercherie. On ne donne pas sa vie pour une fausse histoire qu'on essaye de couvrir. La réponse est la résurrection. Et Pierre écrira dans son épître, ce n'est pas des fables qui ont fait en sorte que nous nous sommes tenus pour lui. C'est parce que nous l'avons vu dans sa majesté ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il y a une paix, il y a une force. Et pendant 40 jours, nous dit les Écritures, il a apparu. Dans sa résurrection, a apparu aux disciples, a apparu à différents individus, a apparu même, il est apparu ressuscité à jusqu'à 500 personnes à la fois. Et l'apôtre Paul, écrira 30 ans plus tard, il écrira encore à des gens qui étaient encore vivants, qui avaient connu la résurrection, qui l'avaient vu dans la ville ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter avec moi ce matin pour dire il y a un verdict qui est là. Le ressuscité est vivant, il transforme. C'est la seule réponse à leur transformation et c'est ça qui apaise mon cœur parce que le ressuscité peut transformer ma vie à moi aussi. À moi aussi. C'est l'épreuve et les promesses. L'épreuve et les promesses. C'est pourquoi l'Église a explosé. L'historien séculier nous estime qu'après quelques années seulement, il y avait 30 000 chrétiens dans Jérusalem. Et après 10 ans, il y avait 100 000 chrétiens dans Jérusalem. Et après ça, pendant 3 siècles, l'Empire romain a tout fait persécution. Vous avez vu les films jetés aux arènes, aux lions. Persécution massive pour faire disparaître le christianisme. Mais 3 siècles plus tard, l'Empire romain est renversé et le christianisme remplit le monde. Le christianisme touche le monde entier. Et depuis ce temps, il y a toutes sortes d'hommes chercheurs, toutes sortes de gens qui trouvent et amassent des preuves de la création, des preuves de la véracité de la Bible, des preuves où la science vient confirmer la foi. Aujourd'hui, dans la Presse Plus, on parle d'un livre qui en ce moment fait fureur en France. J'en ai eu une copie écrite par Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Vous pouvez marcher à Paris en ce moment, vous allez voir des affiches, des panneaux partout. Ils sont sur plein d'interviews télévisées. Ils sont en train de faire la tournée ici au Québec dans quelques semaines. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Et le Figaro qui a dit, est-ce que la science devient maintenant un allié, un défenseur de la foi? Et je vous recommande d'acheter ce livre parce que c'est une brique, mais c'est une centaine de scientifiques. L'aube d'une révolution, qu'est-ce qu'une preuve? Ce que disent les grands savants eux-mêmes, sans citation essentielle. Les erreurs de la Bible qui en réalité ne le sont pas. Qui peut être Jésus? Le matérialisme, une croyance irrationnelle. Il y a à travers l'histoire une masse d'évidence sur la qui amène une connaissance et une conviction que du Christ ressuscité. Qui fait reculer la peur et l'angoisse et les inquiétudes. Mais plus qu'une conviction, une connaissance, c'est la communion avec le Christ ressuscité, en toute simplicité, parce que Jésus est ressuscité et que lorsque nous appelons à lui la communion avec le Dieu vivant devient la plus grande preuve de la résurrection. L'œuvre qu'il fait dans des êtres humains depuis 2000 ans, la transformation, l'apaisement, la libération. Pierre l'a expliqué de cette façon. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à une foi chrétienne authentique, au moyen de la connaissance, oui, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Mais il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Il y a plus de 2000 promesses dans la Bible. Et le Christ ressuscité les accomplit dans nos vies à chaque jour. La promesse de la résurrection, pourquoi je peux trouver la paix? C'est qu'alors que je m'approche du ressuscité, il me communique sa nature divine. Il me communique sa paix. Il me communique son amour. Et je suis toujours éberlué, je l'ai vu plusieurs fois en personne faire des conférences, mais par l'histoire de Lee Strobel. Lee Strobel aux États-Unis, est un conférencier, aussi un auteur. Il a plus de 14 millions de livres en circulation. Et c'est un docteur, il avait son doctorat en droit de l'Université Yale. Mais ce qui l'a marqué sa carrière, c'est qu'il a été journaliste pendant 14 ans pour le Chicago Tribune. Il était spécialiste des enquêtes d'investigation. Il a remporté plusieurs prix journalistiques, dont le prix Pulitzer, qui est le prix le plus prestigieux. Et il l'a eu pour une enquête qu'il a faite qui démasquait des scandales dans des institutions religieuses. Et lorsqu'il a signé, et lorsqu'il témoigne, lorsqu'il raconte son histoire, il a été pendant des décennies, il se décrivait lui-même comme un athée féroce, un féroce athée. Il ne croyait en rien de Dieu, un matérialiste. Jusqu'au jour, jusqu'à une période de sa vie où son épouse, qui souffrait depuis des années de dépression chronique, de crise d'anxiété, d'attaques de panique paralysante, où parfois elle était hospitalisée, avait essayé tout ce qui était possible, et d'une manière, d'une simplicité désarmante qui défiait l'esprit cartésien analytique de Strobo. Elle a commencé à partager avec une femme qui la connaissait, qui l'a invitée à venir à un petit groupe de dames qui priaient ensemble, qui commençaient à prier avec elle. Elle s'est approchée d'une église, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a commencé à marcher. Et Strobel a vu dans sa maison, il écrit, j'ai vu le miracle dans ma maison. Elle est tellement sceptique qu'après 6 mois où sa femme semblait libre, capable de faire ce qu'elle ne faisait jamais auparavant, pas de rechute, il se disait, c'est pas possible, quelque chose. Il s'est mis à faire ce que Strobel fait. Il s'est mis à faire une enquête, il s'est mis à faire une investigation sur plusieurs années pour essayer de démasquer, pour essayer même de prouver même à son épouse que tout ça ne pouvait pas être possible. Et dans le processus, il est devenu chrétien. Dans le processus, il est devenu ce qu'on appelle un apologiste. Il a écrit maintenant une trentaine de livres, j'ai dit 14 millions de livres en circulation. Et chacun de ses livres sont comme une plaidoirie, c'est un avocat. The Case for Christ, The Case for the Resurrection. Il y a même un film qui a été fait sur Netflix sur l'histoire de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le plus grand argument pour la résurrection, c'est l'œuvre que Dieu fait de ressusciter dans le cœur, dans la vie des gens. Il n'y a personne qui peut enlever ce témoignage-là. C'est pour ça que je ne crains pas le chaos, à cause des preuves et des promesses de Dieu. Parce que la résurrection n'est pas seulement un fait avéré du passé, c'est une force active au présent. Et c'est le P. C'est les preuves et les promesses qui nous donnent la paix, et le E, c'est l'esprit qui renouvelle l'espoir. Moi, je suis réconforté lorsque je regarde la réaction des disciples à la résurrection, à la pensée de résurrection. Comme nous, c'est impossible. Comme nous, ça défie l'entendement. Et à chacun des évangiles nous raconte, même lorsque les femmes sont allées au tombeau, elles sont revenues en disant « Il est ressuscité ». Ils ont pris comme folle, même lorsque Pierre et Jean sont revenus, ils ont dit « Le tombeau est vide, on ne peut pas croire ça ». Et dans Jean 20, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte. Le mot est terreur dans le grec. De la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils sont barricadés, ils sont enfermés. Les Juifs qui ont assassiné Jésus sont partout autour d'eux. Ils ont 3 empires qui veulent leur peau. Les Juifs, un empire religieux. Les Grecs, il y a tout un élément philosophique. Il y avait aussi, bien sûr, l'Empire romain. Ils sont là, terrorisés. Les portes sont barricadées. Et Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus, le ressuscité, veut se présenter à toi et te dire, « Je peux te donner une paix que rien ni personne d'autre ne peut te donner. » N'aie pas peur. Il y a une paix qui est possible, quel que soit le chaos autour de toi. Et quand il leur dit ça, il montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Ne manquez pas ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » La deuxième raison pour laquelle je ne crains pas le chaos, c'est que j'ai accès, et tu as accès aussi, à l'Esprit de Dieu qui vient, le souffle de Dieu qui vient apaiser, nous donner espoir et force. Le mot, lorsque vous lisez le mot « esprit » dans le Nouveau Testament, c'est le mot « pneuma ». Ça veut simplement dire « souffle ». Je sais qu'au nom du Saint-Esprit, vous avez vu toutes sortes de trucs en ligne, avec toutes sortes de choses bizarres, mais c'est simplement le souffle. Le souffle de Dieu. C'est littéralement le Christ ressuscité qui souffle, le même esprit qui a ressuscité Christ, qui souffle sur celui qui ouvre sa vie, il souffle. Comme le petit bébé qui naît, que le docteur fait pop, pop, pop dans le dos, puis il se met à crier, le souffle. Ton premier souffle, tu nais physiquement, l'expression que vous avez entendue, being born again ou être naître de nouveau, c'est naître du souffle de Dieu. Et la résurrection apaise les cœurs et donne une paix que personne ne peut imaginer. C'est ce qu'on a lu ensemble. Parce que lorsque le souffle de Dieu se mêle au tien, lorsque tu commences chaque jour en disant, Seigneur, viens souffler sur ma vie, il y a une paix, il y a une paix qui est là. Il y a une paix qui est indescriptible. Lorsque la Bible décrit le Saint-Esprit, elle dit, ça sera le souffle qui est un consolateur, un paraclète. Le souffle de Dieu qui console et qui apaise. Le fruit du souffle de Dieu, toi qui regardes en ligne, le fruit du souffle de Dieu qui est le fruit de l'Esprit qui est paix, qui est joie, qui est amour, qui est douceur, qui est maîtrise de soi, qui est patience, qui est bonté. La transformation que l'être humain prend. Ben Paul dira à un jeune qui était plein d'anxiété, plein de peur, qui était paralysé par la peur, le jeune Timothée, il lui dira, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et un esprit d'amour et un esprit avec un, en anglais, ils l'ont traduit, a sound mind. Mais le grec, c'est tellement un terme magnifique, un esprit avec un esprit qui est complet, qui est guéri, qui n'est pas en morceaux, qui n'est pas déchiré, qui n'est pas dans toutes les directions. Le souffle de Dieu amène une paix. Le souffle de Dieu de la résurrection. La résurrection n'est pas un événement ancien seulement. C'est une expérience actuelle. Ce n'est pas un sujet de débat. C'est un souffle que tu devrais découvrir. Il y a 2000 promesses dans la Bible et le souffle de Dieu vient les rappeler à nos cœurs. Le souffle de Dieu vient, je vous en donne deux. Deux promesses, voici ce que le souffle de Dieu permet, rend possible en nous. Ésaïe chapitre 43, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, je t'ai créé, je t'ai formé, je serai toujours avec toi. Si tu traverses des eaux troubles en tempête, je serai avec toi. Les flammes ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé, parce que je t'aime et je serai toujours avec toi. La Bible n'est pas utopiste. La Bible ne promet pas aux chrétiens l'exemption des épreuves. Elle promet que tu peux expérimenter un espoir renouvelé par l'Esprit de Dieu. Pas une immunité. Tu ne seras pas immunisé contre les épreuves, mais tu peux être infusé. Tu peux être insufflé, impacté par l'Esprit de Dieu. Jésus a décrit, voici ce que Jésus fait, le ressuscité dans les vies. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles, d'espoir aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer à ceux qui sont prisonniers qu'ils peuvent être libres, apporter la consolation à ceux qui sont affligés, faire émerger une pierre précieuse de leur cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce qu'il veut faire et peut faire dans ta vie. Et la motivation suprême de Dieu, c'est l'amour. C'est par amour, la mort et la résurrection. C'est par amour, c'est la troisième lettre, c'est le U de peur. C'est l'union nouvelle avec Dieu, l'univers de son amour. Romains 5 dit, Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsqu'on était étranger ou ennemi de Dieu. Je ne rencontre pas beaucoup d'ennemis de Dieu dans cette province. Mais il y a beaucoup d'entre nous et vous en ligne qui sommes étrangers. On est devenus étrangers à qui il est. À qui il est, à son essence, à ce qu'il veut faire, à sa réalité pour nous dans la résurrection. Même lorsque j'étais étranger, même lorsque j'étais ennemi, Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour une vie abondante qu'il nous a préparée. Écoute-moi, Dieu ne fait pas des actes d'amour. Il n'est pas capable d'amour. Il est amour. Dieu, lorsqu'il se définit, Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est individuel. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est extravagant. Dans Éphésiens 3, il le décrit ainsi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, c'est ça qui fait partir, c'est ça qui fait apaiser le cœur. Lorsque je suis aimé et approuvé de Dieu, lorsque je suis approuvé, je n'ai plus rien à prouver. En sorte que Christ habite dans nos cœurs, je suis enraciné, je suis fondé dans l'amour. Pour que vous puissiez comprendre, avec tous les croyants, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et le texte, afin qu'on en soit rempli chacun d'entre nous. Car là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a plus de crainte. Parce que l'amour parfait de Dieu nous libère de toute crainte. L'amour parfait qui libère de toute crainte. L'amour de Dieu qui vient. Dieu n'a pas seulement dit, je t'aime, je t'envoie une carte postale. Il est venu lui-même pour toi, pour moi. Il a étendu ses bras à la croix en disant, c'est comme ça, je t'aime à ce point, je t'aime à ce point, crucifié, mort, ressuscité pour toi. Je t'aime tellement. C'est un aspect de la théologie que la majorité ne saisissent pas. Je t'aime tellement que j'aime mieux mourir. Mourir et ressusciter pour te donner la vie. J'aime mieux mourir que de vivre sans toi. Alors je t'offre la vie. Ce n'est pas une légende ancienne où les serviteurs meurent pour le roi. Le roi a donné sa vie pour nous. C'est ce que j'appelle l'amour 4D de Dieu. L'amour en 4D, l'amour en quatre dimensions dans le texte qu'on vient de lire. Vous remarquez qu'on a parlé de longueur, de largeur, de profondeur, de hauteur. C'est Dieu qui dit littéralement, mon amour moi, est tellement grand que la longueur de mon amour, ça ne sera jamais trop tard pour toi. Quel que soit le temps qui a passé, ça ne sera jamais trop tard pour toi. Humainement, on peut devenir usé d'aimer. On peut manquer en chemin, sur le chemin de l'amour. Mais Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, à toi en ligne, ça c'est jamais trop tard pour que mon amour te ramène. La largeur, tu ne pourras jamais aller trop loin pour que mon amour te ramène. Il n'y a rien que tu peux faire qui va faire en sorte que Dieu va t'aimer moins. Il n'y a rien que tu peux faire qui va te séparer de son amour. La profondeur, tu ne seras jamais trop bas, trop creux pour que Dieu ne puisse pas te relever par son amour. La hauteur, tu ne pourras jamais imaginer à quelle hauteur il peut t'amener ta vie par son amour. C'est même, l'univers de son amour, c'est même que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ le ressuscité. Il y a quelques années, on va applaudir l'amour de Dieu ensemble. Deux, trois fois, je vous coupe. J'arrive à la fin. Il y a quelques années, lorsque j'étais en Roumanie, j'ai eu le privilège d'apporter une conférence là-bas. Et c'était particulier parce que la conférence avait lieu dans le palais présidentiel qui avait été bâti par un dictateur terrible communiste, Nicolae Ceaușescu, qui avait dominé sur la Roumanie et avec une haine particulière pour tout ce qui était les croyants. Il a emprisonné des milliers de croyants, les a envoyés dans des goulags, en a fait assassiner. Ça glace le sang. Il y a un musée là-bas que tu peux aller visiter qui raconte cet holocauste des chrétiens en Roumanie sous Ceaușescu. Et il y a des bandes sonores à la radio où Ceaușescu disait régulièrement dans tous ses discours, il disait « il faut éliminer les rats ». Il parlait des croyants comme des rats qu'il fallait éliminer, il parlait comme ça publiquement. Mais là, lorsqu'il a été renversé, il y a une démocratie qui s'est installée. Et lorsque nous sommes arrivés il y a quelques années, ça fait 3 ou 4 ans de ça, c'était assez remarquable. Les chrétiens étaient émerveillés parce qu'on était 500 pasteurs. J'étais adressé 500 pasteurs dans le palais de Ceaușescu, à l'endroit où tous les plans ont été faits pour éliminer. Il y avait des cellules dans ce palais-là de torture des chrétiens. Et là, on était 500 pasteurs, les épouses qui étaient là, proclamant le ressuscité, chantant le ressuscité, déclarant le ressuscité. Est-ce que je peux dire, rien ni personne ne peut arrêter le Christ ressuscité. Et on a eu l'honneur de rencontrer le président, le premier ministre, le président de la Roumanie. Il y avait tout un protocole. Et j'étais surpris parce que j'ai visité plusieurs pays, puis ça m'est arrivé de rencontrer des dignitaires, mais là, je n'avais jamais vu un protocole comme ça. Il y avait des checkpoints un après l'autre. Ils ont pris notre passeport. Il y avait des vérifications. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des scans après scans pour se rendre jusqu'à finalement arriver dans le bureau avec le président, avec le premier ministre. On a eu quelques minutes. On a pris la photo. Après ça, quelques minutes avec lui. Et mon ami, le pasteur Gary Wilkerson, parce qu'il nous a demandé qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la conférence que vous êtes venu animer. Alors Gary Wilkerson, le pasteur, lui commence à lui en parler, puis essaye de lui parler un peu de Dieu. Et ce monsieur-là, ce président-là était très courtois, un homme brillant. Courtois, mais froid, distant. Et lorsque Gary s'est mis à parler un peu de Dieu, il a été poli, mais avec un ton glacial, il a dit, « C'est un concept qui m'est étranger. J'ai été élevé sous le régime communiste depuis l'enfance. Je respecte la foi des gens que vous me décrivez, mais je n'ai aucun point de référence. » Puis lorsqu'il a dit ça, je me suis dit, « OK, le meeting achève. » Et de l'autre côté de son épaule, j'ai vu du monde commencer à s'agiter partout. Là, c'était comme, OK, débarrassez-moi des pasteurs. Et alors qu'on était assis là, et lorsqu'il dit ça, il est très poli, tout à coup, patlar, les portes du bureau s'ouvrent et deux enfants entrent en courant, comme des enfants font, en criant, en courant, blablabla, en accrochant toutes sortes d'affaires. Et c'était le fils et la fille du président. Et ça s'en et tu voyais un gars de sécurité qui courait après les enfants, qui avait passé à travers. Et là, ça rentre, il s'en monte direct. Et moi, je me tourne vers le président et c'est plus le même homme. Il a les yeux brillants, il est tout illuminé. Je vais vous le faire en roumain. Non, j'ai pas le temps. Alors, il s'en vient, il se commande. Viens, papa. J'entendais papa. Viens, papa. Viens, les enfants sautent dessus, ils donnent des becs, ça fait en bas que je noie, je joue avec lui. Bou, bou, bou. On est là, on regarde ça. Et les enfants étaient particulièrement, on va dire, turbulents parce que je suis en ligne là, pour le monde entier, mais ils étaient vraiment agités, tout ça. Puis là, lui, il faisait. Il couvrait de becs. Il était. Pas le même homme. Et finalement, on est tous assis à nous et on assiste à ça. Ça dure super longtemps, plus longtemps que notre speech à nous, notre temps à nous. Et là, finalement, les enfants s'en vont en s'en allant. Et papa, il ne faut pas partir. Il prend son papa dans ses bras. Puis lui, il est fou de ça. Le premier ministre froid et distant. Et là, et il est gaga de ses enfants. Puis il n'arrêtait pas de dire « That's my son, that's my daughter, papa. » Puis il nous explique toute leur vie. Ils ont 4 et 6 ans. Ils ont accompli tellement de choses déjà. Alors, il nous explique. Les enfants sortent. Il est encore là, basking in the joy. Il est juste il est comme ça. Et là, l'autre pasteur qui était avec nous n'a pas manqué le moment. Il a dit, « Monsieur le Président, vous cherchez un point de référence? Je peux-tu vous dire un verset de la Bible, Monsieur le Président? » Et là, il a dit, « Oui. La Bible dit, c'est vous qui êtes humain illimité. Vous pouvez donner amour. Et désirer la paix et le bonheur et la protection et le bien de vos enfants. Combien plus Dieu le Père offrira-t-il son amour à ceux qui s'ouvrent à lui? » Et j'ai vu le président, il a fait « interesting ». J'aimerais vous dire, c'est plus que « interesting », c'est « life-changing ». C'est quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours. Pourquoi je n'ai pas peur du chaos? Le P, les preuves et les promesses qui me donnent la paix. Le E, l'esprit qui renouvelle l'espoir. Le U, l'union nouvelle avec Dieu, l'univers de son amour. Et le R, c'est une révélation et une réponse. Dans les temps, à travers les siècles, Dieu se révèle à ceux qui ouvrent leur cœur. 1 Pierre 1, parce que Jésus est ressuscité des morts, nous avons une vie nouvelle qui est prête à être révélée. Dans les derniers temps, par sa résurrection, il nous offre un héritage futur qui nous est réservé dans les cieux. Pour ceux qui ont peur de la mort, pour ceux qui ont peur de ce qui arrive après, cette peur-là, elle disparaît, elle se dissout dans la compréhension que le ressuscité, ceux qui vont venir à lui et s'abandonner à lui, vont ressusciter aussi avec lui. Il nous offre un héritage futur. Ça, c'est après dans les cieux. Mais ici sur la terre, le futur commence maintenant. Nous sommes maintenant aptes à recevoir la puissance de la résurrection qui change tout. Il l'a décrit de cette façon. Qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une force, il y a une paix pour celui ou celle qui va simplement répondre. C'est le R de peur. Dieu ne s'impose à personne, ne se force à personne, n'impose jamais sa volonté sur qui que ce soit, mais il est infini dans sa patience, dans son amour. Et c'est ta réponse qui va déterminer. Est-ce que tu es prêt à simplement ouvrir ta vie et à t'abandonner à lui? T'approcher de lui, Hébreux 4 dit, t'approcher de lui sans crainte pour recevoir le secours dont nous avons le plus besoin. Il y a quelques semaines, j'ai lu un article qui m'a beaucoup intéressé. C'était un article dans la presse, le 3 avril, où on donnait une page blanche à des artistes québécois. L'intro disait ceci: avec leur plume unique et leur sensibilité propre, les artistes québécois nous présentent à tour de rôle, leur vision du monde qui nous entoure. Ils peuvent parler de n'importe quoi, leur vision du monde. Cette semaine, nous donnons carte blanche à Mariana Mazza. Et Mariana Mazza avait carte blanche pour parler de sa vision du monde. Et elle a écrit un texte qui s'intitule « Aimons-nous les uns les autres » où elle décrit un événement qui venait de lui arriver en février. Elle dit « Une femme s'assoit, elle est en Floride en vacances. » Une amie d'une amie qui lui présente quelqu'un. Une femme s'assoit à côté de moi. C'est une amie d'une amie. Nous nous présentons sans m'avertir. Elle me demande si je voudrais aller visiter son église le lendemain. Je me suis surpris de répondre oui. Le lendemain, je me suis présenté à l'église Calvary Christian. Moi qui pensais avoir des... Je suis abasourdi par la bonté des gens. Les gens qui se promènent dans les corridors en attendant le début sont parfumés, sourires, arborant les plus beaux vêtements du dimanche. Voici la perspective que Mariana avait. Moi qui pensais avoir des relents d'odeur de paparman et croiser uniquement des gens qui s'apprêtent à décéder. Beaucoup de monde qui pense ça. Elle écrit ceci, j'ai trouvé ça juste une belle simplicité. À aucun moment, je me sens comme si je ne suis pas à ma place. Ma foi n'est pas ébranlée ni forcée. Je peux vivre le moment présent dans cet endroit. Je m'abandonne comme jamais. Et là, l'honnêteté de dire, moi, jamais je ne m'abandonne. J'aime le contrôle. J'aime la lucidité. Quand tout va vite, à mon rythme. Mais pour une rare fois, je m'abandonne. Je prends le temps d'être dans un endroit totalement hors de mon confort et de m'y blottir. Nous sommes, elle utilise ces mots, nous sommes bénis. Je sais que j'y retournerai un jour, juste pour arrêter le temps, quand tout ira trop vite et que je serai étourdi. Aimez-vous les uns les autres, qu'ils disent. Et c'est tout ce que le Seigneur demande de toi. Ouvre ton cœur et entre dans la résurrection. C'est le dernier texte que nous retrouvons sur la résurrection, le matin de la résurrection de Jésus. Il y a encore de la peur, les gardes tremblent de peur. Mais le messager du ciel a pris la parole et a dit, « Pour vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez et entrez dans le lieu de la résurrection. » Et j'aimerais t'appeler aujourd'hui et te dire aujourd'hui que si tu es prêt simplement à répondre et à entrer dans la résurrection, le Seigneur tend ses bras et il est prêt à t'accueillir. Et tout le peuple de la résurrection dit un dernier grand Amen. J'invite les musiciens à s'approcher. Merci d'avoir été si patient à m'écouter. Je vous demande une dernière faveur avant que le tourbillon de la vie nous reprenne. Est-ce que je peux vous demander une faveur de simplement vous, mais aussi en ligne, tous ceux qui sont en ligne en ce moment, par milliers, est-ce qu'on peut pencher la tête ensemble? Un moment de recueillement, juste avant de partir. C'est un moment où la résurrection vous est offerte. Ou du tombe au vide, Jésus dit, viens, entre dans la résurrection. J'aimerais simplement pouvoir prier avec vous. Poser et simplement faire cet appel tout simple. Tout le monde a la tête penchée, je ne vais pas embarrasser qui que ce soit, mais c'est comme si la main de Dieu est tendue envers chacun d'entre vous. Il n'est pas un Dieu de foule et de masse religieuse, il est un Dieu du cœur, de l'individu. Il connaît tout de toi mieux que toi-même. Alors, si vous êtes ici ce matin, tu es ici ce matin ou en ligne, c'est à toi aussi que je m'adresse, surtout que le Seigneur t'adresse en ce matin de Pâques. Si vous dites en toute sincérité, il y a quelque chose qui est mort en moi. Pasteur Claude, il y a quelque chose qui est mort en moi. Il y a une joie, lorsque quelqu'un dans ma famille est décédé, il y a quelque chose qui est mort en moi. Lorsque tel événement est arrivé, il y a quelque chose qui est mort en moi. Il y a une paix, il y a une joie de vivre, il y a une confiance, il y a une capacité de faire confiance. Il y a un espoir que je m'en sortirai qui est mort en moi. J'ai quelque chose qui est mort en moi. Et ce matin, je veux l'offrir au Seigneur. Je veux entrer dans la résurrection. J'ai besoin de celui qui ressuscite ce qui est mort en nous. Si c'est votre situation de cœur, en toute simplicité, Dieu vous a conduit ici pour une raison. Il veut débuter cette œuvre en vous. Vous êtes prêt à vous abandonner à lui. Il est prêt à le faire. Lorsque vous êtes ici ce matin, vous dites quelque chose qui est mort en moi. Seigneur, j'ai besoin de ta résurrection. En toute simplicité, juste levez votre main. Vous dites, me voici, Seigneur. Comme si la main de Dieu, waouh, les gens partout. Alors que la main de Dieu est tendue, c'est comme si tu lèves la main et tu dis, je veux prendre ta main, Seigneur. Je veux prendre ta main, j'ai besoin de résurrection. Je reconnais qu'il y a des peurs en moi. Je reconnais qu'il y a des angoisses, je reconnais qu'il y a des paniques, où il y a quelqu'un près de vous qui est victime de ça, qui vit ces attaques de panique. Et je suis reconnaissant pour tout ce que la thérapie, tout ce que la médecine peut faire, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui peut être fait pour aider. Mais il y a un souffle de Dieu qui peut faire une différence en toi. Alors si aujourd'hui tu dis, Seigneur, mes peurs, mes craintes, mes angoisses, mes anxiétés, je te les remets. Tu prends tes mains comme une coupe et tu dis, Seigneur, je te les remets. Je les remets devant toi aujourd'hui. Viens, mets ton souffle. À partir d'aujourd'hui, je vais te demander, je vais penser, je vais m'offrir, je vais ouvrir ma vie à toi, le ressusciter, et que ton souffle se mêle au mien, que le souffle de ton esprit vienne sur moi, à chaque jour, pour apaiser, pour guérir. Ça a été difficile, j'avais à cœur de prier ça. Il y a des gens que, en ligne et ici à Nouvelle-Vie, c'est difficile pour moi d'imaginer un Dieu d'amour. C'est pas comme ça que j'étais enseigné. C'est pas ça qu'on m'a enseigné. C'est pas ça qu'on m'a inculqué. ou tout simplement c'est juste difficile pour moi d'accepter l'amour, que je suis aimé inconditionnellement de Dieu. J'ai tendance, même des gens qui suivent le Seigneur, qui sont chrétiens, j'ai tendance à toujours penser ce que j'ai pas fait. Le nombre de personnes au fil des années qui m'ont dit, mon problème, Pasteur Claude, c'est que j'aime pas assez Dieu. Et moi, je réponds, non, le problème, c'est que tu ne réalises pas à quel point Dieu t'aime, à quel point il est avec toi, à quel point le ressuscité t'offre sa vie de résurrection, sa paix, son amour. Tout simplement, si vous êtes ici aujourd'hui, vous dites, je veux entrer dans la résurrection. Simplement, vous, juste tendre vos mains comme si le Seigneur tendait ses mains vers vous. Tu tombes au vide, dis, Seigneur, je m'offre à toi. Alors, Seigneur, ensemble, je prie pour chaque personne, par centaines et centaines, et je sais en ligne par milliers, qui ont tendu les mains vers toi et qui ont dit, Seigneur, il y a quelque chose qui est mort en moi, tu es la résurrection et la vie, vient donner vie, vient ressusciter ce qui est mort en moi. Seigneur, c'est difficile pour moi-même de comprendre, de concevoir ton amour, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ton esprit témoigne à notre esprit. Alors, je te prie, va faire une œuvre surnaturelle dans des cœurs, ici au Canada, ici à Longueuil, ici à Nouvelle-Vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons à toi et toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos craintes, tout ça, on les remet entre tes mains. Et par la foi, nous déclarons, parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant avec moi et pour moi, je peux déclarer, je n'aurai pas peur du chaos. Je vais trouver la lumière et marcher dans la lumière de la résurrection, même à travers le chaos. C'est notre confession, c'est notre déclaration de foi à tous et à tous ceux qui la font avec moi. Voulez-vous dire un dernier grand Amen? Et voulez-vous lui donner à lui toute l'honneur? Est-ce qu'on peut se lever?